quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, bonjour, bonjour. 20 mai 2026. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Mathieu, ça va?
Oui, elle-même.
Oui, elle-même va bien. Et elle-même est contente de souhaiter bonne fête à Isabelle Falardeau, qui est au bout du fil.
Merci.
Bonne fête, bonne fête. Joyeux anniversaire.
Vous le savez, j'ai eu le plus beau cadeau de fête que j'aurais pu espérer.
Lequel?
Alors, j'étais au Centre Bell pour le 7e match des Canadiens. Vous savez que je suis une fan des Canadiens. Et donc, évidemment, ils ont gagné. C'était incroyable.
Ah oui. Est-ce qu'on vous remet une serviette à l'entrée? Parce que tout le monde a la même serviette blanche. Je me demandais comment ça se faisait.
Oui, c'est les 10 000 premières personnes qui reçoivent. Mais moi, j'arrive toujours à temps pour en avoir une. J'en ai deux maintenant. Là.
Ah
j'ai...
oui? Oh, oui, chanceuse.
Oui, j'ai un ami qui travaille pour le Canadien. Donc, j'ai été chanceuse jusqu'à maintenant.
Vous êtes pistonnée.
Voilà.
Avez-vous mangé des hot dogs à 50 piastres?
Non, j'exagère j'ai mangé un peu. Du popcorn à 9 piastres.
OK. Mais c'est moins cher qu'un billet pour assister à un match. Mais est-ce
voilà, exactement.
Oui.
Quand on n'a pas payé son billet, c'est pas cher. Là.
Parce que j'étais curieuse de savoir combien ça coûte d'assister à un match au Centre Bell quand l'équipe est ailleurs.
On s'est posé la même question avec mes autres amis qui étaient là, puis on n'a pas vraiment eu la réponse. On sait que c'est moins cher qu'évidemment que quand ils sont là. Mais l'ambiance est presque pareille.
Ah,
c'est
oui,
incroyable.
Hein?
C'est incroyable.
Mais les images que j'ai vues dans la rue au Centre Bell, c'est extraordinaire. On a l'impression que les joueurs sont sur la glace. On est vraiment des vrais fans. Alors, ben oui, vous avez Coupe Stanley, vous, dans votre adresse courriel.
Oui, oui, ça fait longtemps. Je me fais niaiser des fois, mais... Une fois de temps en temps, je peux en être fière. J'en suis toujours fière, mais ouais.
Alors, d'après vous, ça sent la coupe, Isabelle?
Ça commence à sentir la coupe. C'est sûr que ça va être, la barre va être un peu plus haute là, avec Caroline, mais...
Hurricanes, là. Ouh! Ouais. C'est un petit peu stressant. Ben c'est un petit peu stressant. C'est beaucoup, beaucoup de stress, mais on n'aille pas ça quand même. Bon. Alors, Isabelle, aujourd'hui, vous allez nous parler de rigidité alimentaire. Qu'est-ce que c'est?
Ben, justement, parlant de stress, parce que quand on essaie de perdre du poids, ben ça, dépendamment pour quelle raison, quelle motivation, ben ça peut causer du stress. Et c'est un des aspects là, qui était analysé par cette chercheuse. Donc, fait une étude sur différents groupes de personnes qui ont différentes approches pour la perte de poids, on va dire ça comme ça. Puis les conclusions sont quand même un petit peu étonnantes. Donc, vous allez voir l'importance de ne pas avoir de rigidité quand on d'avoir de la flexibilité quand on essaie de perdre du poids. Là, en général, dans notre alimentation, c'est mieux de ne pas être trop rigide.
Dans la vie en général aussi, hein, la rigidité, là, c'est pas une bonne chose. Alors, Isabelle, on vous retrouve dans quelques minutes. Nous aurons aussi la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte, qui a vu 3 films pour nous, dont L'Aventurine de Carlos Ferrand, qui se passe dans la belle Gaspésie. Et Julien Caillouette sera là pour des nouvelles du Canada francophone. Et aussi, on aura de la belle visite autour de 10 heures. L'autrice, compositrice, interprète, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Elle s'appelle Geneviève Bilodeau. Et puis, en avril, elle a lancé un album intitulé « Rendre grâce ». On lui parlera de ce qu'elle a fait ces dernières années, de cet album, évidemment. Puis, on en profitera pour écouter des chansons tirées de « Rendre grâce ». Pour tout de suite, on commence cette émission avec Jonathan Personne. Bonne matinée.
Rêve américain, une chanson de Jonathan Personne.
À la une du Journal de Montréal, un effet fréchette sur les intentions de vote. L'effet fréchette n'a pas l'ampleur de celui de Mark Carney, mais la nouvelle première ministre propulse la CAQ dans une lutte à trois pour les prochaines élections. Attention toutefois, sa remontée est fragile. Après avoir grugé dans le vote libéral, Christine Fréchette continue de séduire cette fois dans les rangs conservateurs et chez les femmes plus âgées de la banlieue montréalaise. La chef caquiste ramène son parti dans la course au pouvoir et obtient 22 % des intentions de vote, un bond de 9 % depuis le départ de François Legault il y a un mois, révèle le tout récent sondage Léger Québécois. Non seulement elle donne un élan à la CAQ, mais Christine Fréchette talonne Paul Saint-Pierre Plamondon désormais pour le titre de meilleur premier ministre aux yeux des Québécois. Un Québécois sur cinq estime maintenant qu'elle est la meilleure personne pour occuper le siège de chef du gouvernement. 2 points seulement derrière son opposant péquiste. Elle a également presque doublé le vote chez les femmes. Le fait qu'elle soit une femme forcément, mais aussi la manière dont elle gère, qui est plus en conciliation, en partenariat qu'en confrontation, plaît à la gente féminine. Mais la satisfaction, 47 % à l'égard de son gouvernement, s'en ressent. Même la satisfaction. L'atout de Christine Fréchette, c'est le timing, c'est-à-dire d'être sur une lancée à moins de 5 mois des élections. Attention toutefois à la solidité du vote, pas moins de 60 % des appuis de la CAQ ne sont pas définitifs. C'est un phénomène nouveau. Ça nous montre que l'élection est totalement ouverte, insiste Jean-Marc Léger, Fréchette est sous évaluation. Ce sont les propos de Jean-Marc Léger. C'est très fragile, une gaffe et ça retombe. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le gouvernement serait péquiste, analyse le sondeur. Le Parti libéral suit de près à 28 % d'appui, mais le chef Charles Milliard perd des plumes dans le cœur des Québécois. Après avoir trébuché à 2 reprises sur la délicate question du français dans les dernières semaines, le capitaine des Rouges s'éloigne du peloton de tête au palmarès du chef qui ferait le meilleur premier ministre. Il a déçu les gens. Mais quand on regarde les intentions de vote, il arrive 2e, 28 % pour le Parti libéral du Québec de Charles Milliard. Même résultat qu'en avril, si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? 30 % pour le Parti québécois, 28 pour le Parti libéral, 22 % pour la CAQ, 11 % pour le Parti conservateur du Québec qui, lui aussi, perd des plumes, 14 % Éric Duhaime, c'est le grand perdant du dernier mois et doit se contenter de 11 % des intentions de vote. Et puis 8 % Québec solidaire, que 8 % ça n'a pas bougé. Depuis le 21 avril 2026, l'autre sondage léger. Toujours à la une du Journal de Montréal, pourquoi les Hurricanes sont favoris? 19 analystes sur 30 les donnent gagnants. Ça reste à voir. À la une du Devoir, Formule 1, le Grand Prix, ça s'en vient, c'est en fin de semaine. On a devancé la fin de semaine le Grand Prix du Canada qui voit l'avenir d'un bon œil. En danger l'an dernier, l'événement rêve maintenant de 100 000 spectateurs de plus et d'étendre ses activités en ville. Texte d'Éric Desrosiers. Hydroélectricité, Terre-Neuve et Labrador veut renégocier l'entente sur Churchill Falls. Un rapport d'experts juge que le projet d'entente n'est pas dans l'intérêt supérieur de la province. On exige plus de valeur pour le contrat d'achat d'électricité, ce qui est au cœur de l'accord. Ça inclut une structure de prix pour la nouvelle centrale de Gould Island, qui ne nous laissera pas pris avec des milliards en dette suivant la fin du contrat. C'est ce que dit Tony Wakeman, qui est le premier ministre progressiste conservateur de Terre-Neuve et Labrador. Et finalement, à la une de la presse plus d'aujourd'hui, on s'en va aux États-Unis. Kentucky, la presse au Kentucky. La main de Trump dans la primaire de parti la plus coûteuse de l'histoire. Les républicains ont poussé à la porte hier l'élu sortant, Thomas Massie, fervent opposant de Donald Trump au profit d'un partisan du président, Ed Galran. Notre chroniqueur Eve Boisvert a pris le pouls des électeurs et ce n'est pas simple. Yves Boisvert qui écrit en rentrant dans son pick-up après la réunion politique, « L'homme n'avait qu'une chose à me dire, Thomas Massie est un traître, c'est pour ça qu'on va le sortir de là. » La portière a claqué sous mon nez et 24 heures plus tard, la prédiction s'est réalisée. Massy, après 7 mandats, vient de se faire bouter dehors par son propre parti. Le message est clair, Donald Trump est le boss du parti et aucune dissidence ne sera tolérée. Depuis un an et demi, Massy était un caillou dans son soulier, comme dit Michael Corleone, dans Le Parrain 3. Pour s'en débarrasser, les alliés de Trump, notamment des lobbies pro-Israël, ont amassé la somme record de 32 millions, du jamais vu pour une simple primaire du parti. Thomas Massy, un conservateur libertarien, n'est pourtant qu'un des 6 représentants du Kentucky, ce qui ne pèse pas lourd sur 435 membres de la Chambre à Washington, mais il a commis ce crime qui lui vaut aujourd'hui la peine de mort politique, s'opposer publiquement à Trump à répétition.
Allez, je défie la loi de la gravité. Optimiste, cérébral, rien ne m'arrête. Je redeviens mon arme vitale. Dans ce chaos, comment dire, c'est un miracle. Hop à l'avant, c'est preuve de courage. En vue des prévisions d'une tempête imminente. Elle avance, sans masque ni maquillage. Dans ses veines brûle et coule la résistance. Elle tient debout, attention. Elle a mis et tout, regardez-la s'accomplir. Elle prend son envol, désormais elle va bien. Elle n'a plus peur du danger, elle prend contrôle. Mais cette fois, il n'est pas question de changer. Un grand merci pour vos loyaux services. Oh là là là. Délivrés, enfin loin du précipice. On dit toujours que tout passe après la pluie. Oh là là là. Nouvelle saison, nouveaux gens, nouveaux défis.
Un pas devant, c'est preuve de courage. Un animal libéré de sa cage. Elle avance plus vite que l'avalanche. Elle n'a pas le temps d'hésiter. Le fil tremble sous ses pieds. Plus rien ne peut l'arrêter. C'est maintenant, tout se joue. Regardez-la triompher. Elle tient debout, attention. Elle a misé tout. Regardez-la s'accomplir. Elle prend son envol. Désormais, elle va bien. Elle n'a plus peur du danger. Elle prend contrôle. Mais cette fois, il n'est pas question de changer. Elle tient.
Elle tient debout, une chanson de Élie Rose.
Gare à la rigidité alimentaire, dit une chercheuse. Isabelle, c'est le texte que vous avez choisi qui a été publié le 12 mai dans la presse.
Exactement, signé Mathieu Perrault. Et cette chercheuse, c'est Simone Lemieux, qui est nutritionniste à l'Université Laval et qui a présenté ses travaux dernièrement là, au congrès de l'ACFAS à Trois-Rivières. Elle dit que les gens en surpoids peuvent réduire leurs problèmes de santé. Donc, c'est un peu la conclusion, dans le fond, là, de l'étude. Peuvent réduire leurs problèmes de santé en misant sur une alimentation saine, pardon, mais sans s'imposer de règles rigides. Parce que ceux qui ont des règles rigides ont même plus de problèmes de santé que ceux qui mangent ce que bon leur semble. Oui, vous avez bien entendu. Alors, c'est une étude qui a analysé les habitudes alimentaires de 614 Québécois de 5 régions du Québec qui avaient un surplus de poids, soit un indice de masse corporelle ou IMC de plus de 25. La chercheuse a divisé les habitudes alimentaires en 3 groupes, selon est-ce qu'on mangeait plus de bons aliments et moins de mauvais aliments? Est-ce qu'on se fixait ou non des règles? Et quelle était la motivation dans les choix alimentaires? Et là, on a séparé ça en trois groupes. Les membres du groupe qui avaient l'alimentation la plus saine, qu'on va appeler les conscients, avaient des règles qu'ils suivaient généralement, mais pas toujours, et avaient une motivation interne pour leurs règles alimentaires. Donc, c'était des comportements en accord avec leurs autres objectifs de vie, donc pour augmenter leur bien-être, et ils avaient peu d'interdits alimentaires, mais il y avait quand même des règles. Donc, eux, on les appelle les conscients. À l'opposé complètement, on a les sans-souci. Donc, eux, ils n'avaient aucune règle alimentaire. C'est eux aussi qui avaient la moins bonne alimentation des trois groupes.
Ah.
Ils avaient une alimentation intuitive. Il n'y avait aucun désir de contrôler leur poids, mais ils avaient aussi peu de désinhibition, des épisodes où on mange beaucoup pour des raisons émotives. Et entre les deux, donc, on a sur le plan de la qualité de l'alimentation, ceux qu'on a appelés les mangeurs externes. Externes parce que leur motivation ne provenait pas nécessairement de l'intérieur, mais plus de la pression externe. Ils mangeaient avec leur tête, avec beaucoup de règles très rigides. Ils se disaient, il faut que je mange bien, sinon je vais me trouver poche.
Manger avec sa tête, c'est plate, ça?
Ben oui, c'est effectivement. Et vous allez voir que c'est pas nécessairement le plus efficace. Donc, des fois, évidemment, l'élastique cassait, il surconsommait en lien avec des émotions ou, par exemple, dans des situations comme des fêtes où il y a de la désinhibition. Et donc, on a donc les trois, les conscients, les sans-souci et les mangeurs externes. Les conscients avaient le plus faible surpoids et le plus faible taux de syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est pas une maladie en soi, mais c'est un ensemble de facteurs de risque qui augmentent considérablement les probabilités de développer des maladies cardiovasculaires, un AVC ou un diabète de type 2. Donc, c'est un indice qu'on utilise pour vérifier. C'est peut-être plus efficace que l'IMC parce que c'est des vrais facteurs de risque. Donc, il y avait donc les personnes conscientes, conscientes avaient un syndrome métabolique seulement à 20% d'entre eux. Et la surprise, c'est qu'au deuxième rang des problèmes de santé, c'était les sans-souci. Donc, il y avait seulement le tiers d'entre eux qui avaient un syndrome métabolique contre 37% des mangeurs externes. Évidemment, entre un tiers puis 37%, c'est pas énorme, mais c'est quand même une différence. Plus de détails sur le syndrome métabolique. Donc, ça se définit par la présence de trois des facteurs suivants. Un tour de taille élevé, une tension artérielle élevée, un glucose sanguin élevé et mauvais cholestérol élevé ou encore bon cholestérol faible. Donc, si on a trois de ces cinq facteurs-là, on considère qu'on a un syndrome métabolique. Il y a au Canada 25 % de la population qui présente un tel syndrome. Donc, si on parle encore des mangeurs externes, malgré leur alimentation relativement saine, c'est eux qui avaient le pire IMC moyen des trois groupes, 32,7. Alors que les conscients en avaient 29,4 en moyenne et les sans-souci 31. Donc, encore une fois, c'était assez proche, mais c'est quand même un signe que de ne pas se soucier de l'alimentation, c'est peut-être légèrement mieux que d'avoir trop de règles. Et c'est sûrement plus facile aussi.
Mais je me dis que les sans-souci vont peut-être avoir des soucis un peu plus tard.
Ben, c'est ça, on va voir, effectivement. Ouais. Puis c'est quand même juste 614 personnes, donc c'est pas une étude encore exhaustive, mais peut-être que ça donne une piste. En tout cas, pour améliorer notre alimentation, améliorer notre approche à l'alimentation. On dit aussi que les conscients faisaient un peu plus d'exercice, mais au niveau de l'exercice pratiqué, il n'y avait pas de différence entre les sans-souci et les mangeurs externes. Et il n'y avait aussi pas beaucoup de différence entre les groupes au plan des calories ingérées. C'est ça qui est intéressant. Donc, le total des calories, c'est pas extrêmement différent entre les trois groupes. Donc, ce qu'on dit, c'est mieux vaut avoir une bonne alimentation, mais si on n'a pas la motivation pour que ce soit agréable, c'est mieux de ne pas se faire de mauvais sang. Une statistique donc qui a attiré l'attention quand on comparait les trois groupes. Là, on parle de la division homme-femme. Les hommes représentent 4 sans-souci sur 5 et les femmes, 3 mangeurs externes sur 5. Donc, on a plus tendance, les femmes, à se préoccuper donc peut-être de vouloir perdre du poids pour des mauvaises raisons et les hommes ont plus tendance à ne pas se préoccuper du tout.
Bon, donc les femmes seraient un peu plus rigides, quoi.
Ouais. Et Alors que les conscients, donc ceux qui font qui ont des certaines règles mais qui sont flexibles et qui mangent mieux, ben ils sont c'est moitié-moitié. Donc c'est bien réparti entre les deux sexes. Il y a aussi des différences moins importantes sur le plan de l'éducation et de l'âge, si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails. Donc, les sans-soucis sont les moins éduqués, 32% qui avaient un diplôme universitaire, contre 44% pour les deux autres groupes. On dit aussi que les conscients étaient légèrement plus âgés, alors que les mangeurs externes étaient légèrement plus jeunes. Excusez-moi. j'étais intéressée de voir cette... statistique-là, parce que c'est une question que je me suis posée, parce que moi, personnellement, je me classerais un peu dans les sans soucis, ben peut-être dans les conscients, mais en tout cas, je me fais pas trop de soucis en ce moment. Là, j'ai arrêté de surveiller mon alimentation et, surprise, j'ai quand même pris du poids.
Ouais.
Mais c'est avec l'âge aussi, donc j'ai remarqué que ce que je pouvais faire avant, je peux plus le faire maintenant. Donc, j'étais curieuse de voir, oui, est-ce que cette statistique-là est comme ça parce que, en fait, les sans soucis sont plus jeunes et c'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Mais pas nécessairement, en fait. Voilà.
mais je rigole.
Qui avait la meilleure note, c'était quand même les plus vieux.
Oui. Alors, je rigole parce que je trouve ça drôle quand même de catégoriser les gens comme ça. Là. Sans souci, ça me fait rire. Mangeur externe, conscient. Mathieu, est-ce que vous n'avez pas trop suivi? Hein? Je sais que vous aviez d'autres chats à fouetter, mais moi, je suis en train de me demander si je fais partie des conscients ou des sans souci. Peut-être un peu comme vous, Isabelle, là, entre les deux.
Est-ce qu'on peut être conscient d'être sans souci?
Je suis consciente de c'est ça, mais j'ai, en fait, dans le sens que c'est pas externe, moi, dans mon cas, je veux vraiment me sentir mieux dans ma peau. J'ai remarqué là, tu sais, que la prise de poids, ça a un impact sur ma santé. Évidemment, mon linge me fait plus, moi, je déteste magasiner. Donc, j'ai pas envie d'aller.
C'est une source de motivation pour perdre un peu de poids, mais en même temps, c'est sûr qu'en vieillissant, le corps se transforme.
Je le sens au niveau de mes articulations, j'ai beaucoup plus de problèmes. J'avais déjà des problèmes, là, je pense peut-être des débuts d'arthrite, mais depuis que j'ai plus de poids, évidemment, ça met plus de pression sur nos articulations. Et donc, je penserais pas que je serais une mangeuse externe parce que je me fais pas de soucis par rapport à. C'est vraiment pour des bonnes raisons, en quelque sorte, que je veux perdre du poids.
Ouais.
Mais en même temps, je devrais me préoccuper un peu plus de ce que je mange.
Mais on retient cette phrase là qui nous parle vraiment. Ceux qui ont des règles rigides ont même plus de problèmes de santé que ceux qui mangent ce que bon leur semble. C'est sûr que, bon, on ne mangera pas des poutines à tous les jours, là. Mais être moins rigide et manger ce qu'on aime, je pense que c'est un peu pas mal la clé du succès avec un équilibre aussi.
Puis en conclusion de l'article, en terminant l'article, donc on se posait la question, quel impact va avoir sur le comportement alimentaire des personnes obèses la vague des médicaments agonistes de GLP-1, là, comme le Ozempic, Wegovy, qui vient de faire son apparition sur le marché canadien aussi. Et la chercheuse dit qu'elle est à peu près certaine que ça va modifier l'alimentation parce que les pensées intrusives en alimentation sont plus vraiment là quand on prend ces médicaments-là. On perd l'appétit, donc on ne va pas nécessairement se mettre à manger pour de manger de nos émotions. Mais on ne sait pas non plus à quel impact ça a sur l'alimentation intuitive, parce que là, on ne va plus manger quand on a faim, on n'a pas faim. Donc, ça va prendre plus d'études là, sur le genre d'alimentation qu'ont les gens qui prennent ces médicaments-là. Moi, ça m'a poussé à aller faire des recherches un peu parce que j'ai vu passer plusieurs articles sur l'impact de Ozempic dans l'alimentation, dans l'industrie alimentaire aussi. Et je suis tombée sur un article sur Radio-Canada, RAD. Donc, RAD a essayé d'avoir de l'Ozempic pour perdre du poids. Je vous invite à aller écouter ce reportage. C'est un reportage vidéo, mais même si on regarde pas l'image, on comprend quand même, c'est vraiment des témoignages. Puis c'est un très beau reportage. Ça date de 2023 quand même, et c'est donc trois membres de l'équipe de RAD, de Radio-Canada, qui ont essayé d'avoir de l'Ozempic avec leur médecin, sans avoir nécessairement des bonnes raisons d'en obtenir. Surtout qu'à l'époque, c'était encore moins disponible pour les personnes en surpoids. Là, ça commence plus à être répandu aujourd'hui. Mais bref, je vous invite à aller écouter ce reportage. Si vous cherchez RAD à essayer d'avoir de l'Ozempic pour perdre du poids, vous allez tomber sur ce reportage-là facilement. c'est très intéressant. Même si ça date déjà de 3 ans, là, ça
c'est toujours actuel.
Ça pose des bonnes questions, puis ça répond quand même à certaines questions.
Parfait. Alors, de ces temps-ci, il faut faire attention pour ne pas manger nos émotions avec les soirées du hockey qui sont remplies de suspense et de rebondissements.
Tout à fait.
Ouais. Alors, on se fait plaisir, mais il faut quand même être conscient que des fois, quand ça déborde, on n'est pas mieux le lendemain surtout. Merci Isabelle, à la prochaine.
Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
La muse marche toute désabusée, elle a quitté le maître, elle a eu peur de finir statufiée plutôt que de faire naître. Il ne la voyait plus. Fragment de l'œuvre, un granit, une craie. Son miroir incarné, la source qui l'abreuve, est devenu son objet. La muse marche et cherche son âme, aspirée.
C'était la voix de Geneviève Bilodeau dans la chanson « La muse ». Et on va en écouter une autre qui s'appelle « C'est l'aube » qu'on va écouter, Mathieu. Et puis tout de suite après, on parle avec Geneviève Bilodeau de cet album qui s'intitule « Rendre grâce ».
tes peurs. Moi, ma déroute et mes pleurs. Vrai, mon bagage est lourd. C'est l'héritage de l'amour.
C'était la chanson « L'aube » tirée de l'album « Rendre grâce ». Quel beau titre, « Rendre grâce », « L'aube » également. C'est Geneviève Bilodeau qui nous offre cet album. Elle revient à la musique, elle qu'on connaît aussi comme comédienne, documentariste, citoyenne engagée, autrice, compositrice, interprète. Geneviève Bilodeau, bonjour.
Bonjour.
Cycliste également, vous êtes née à vélo.
Il n'y a pas de meilleur moyen de se déplacer à Montréal qu'en vélo.
C'est vrai. Alors, il me semble que ça faisait longtemps qu'on avait... Pardon, j'ai un chat qu'on n'avait pas entendu... Désolée. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. J'en perds la voix. Où étiez-vous? Que faisiez-vous,
c'est
Geneviève?
C'est moi qui étais contagieuse, qui avait perdu la voix. Je te transmets ça. Je vous transmets
c'est
ça.
C'est vrai, parce que la première fois que vous deviez venir, on avait dû annuler parce que vous avez une extinction de voix.
J'ai annulé le spectacle.
Le spectacle lancement.
Oui, ben oui.
Est-ce que ça a été reporté?
Ben là, en fait, comme l'été arrive, puis que les festivals, puis tout ça, ouais. J'ai dit, on va remettre ça à l'automne, parce que j'étais pas sûre de combien de temps ça prendrait, puis je commence à peine à retrouver la voix.
Fait que ah oui.
J'en ai encore des petits bouts de chat, moi aussi.
Ah oui, mais ça s'entend pas trop, là. Pas comme dans ma voix, moi. Alors, sinon, la voix revient tranquillement et la
pourquoi
vie...
j'avais comme, disparu
oui,
comme
comment ça?
Comment
ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, 20 ans, c'est 20 ans entre le premier puis le deuxième album, mais une 14-15 ans avec le Brassière Shop. Le Brassière Shop, c'était de 2012 à 2016.
Ah oui, avec les comédiennes.
Avec Dominique Pétain, Marie-Ève oui. Pelletier. Mais ça, on n'avait pas en disqué. C'était 2-3 ans de tournée sur scène.
Quand même, ça occupe.
Oui, oui. Et beaucoup d'engagement en environnement. J'ai été une dizaine d'années à la Fondation Rivière. Puis ça fait 20 ans, 22 ans que je suis la marraine du Festival de films pour l'environnement. Et donc, ça m'a amené à faire un documentaire sur le fleuve Saint-Laurent avec Patrick R. Bourgeois, qui est photographe sous-marin. Mm-hmm. Et donc, toute cette implication-là, en fait, il y a eu beaucoup d'autres idées puis de projets de films sur le fleuve, mais là, le premier film, c'était sur la beauté du fleuve pour sensibiliser les gens. Tu sais, en fait, moi, je vois des films depuis 22 ans qui peuvent être très déprimants, tu sais. Fait que tu dis, puis comment ça se fait que les gens, ils sont pas au courant puis qu'ils sont pas révoltés puis qu'on n'est pas dans la rue? Puis là, je dis, ben c'est parce que, dans le fond, on parle juste à des convaincus, tu sais.
Ouais.
Fait que là, je me dis, OK, comment parler aux autres? Donc, parlons de beauté, puis... Mais les projets qui ont suivi, ils étaient plus... Il y avait comme une petite alarme là, par rapport au fleuve puis tout ça, tu sais. Fait que, en tout cas, bref, on n'a pas eu notre financement. Puis ça, c'est un peu déprimant. Fait que j'ai eu besoin de revenir à la musique parce que la musique, c'est comme...
Est-ce que la musique fait toujours, depuis toujours partie de votre vie?
Oui, mais c'était pas... Il n'y avait pas de projet de production, tu sais. La ouais. musique, ça fait partie de ma vie. Mais je veux dire,
on vous a connu avec Martin Léon dans le projet Anne-Victor,
ouais.
qui a bien fonctionné.
Oui, oui, oui.
Ça, ça a été votre première incursion professionnelle dans le milieu musical? Ou...
Oui.
Oui.
Ben, tu sais, signifiante, oui.
Okay.
Puis après ça, il y a eu mon album solo Youpalay en 2005.
Ouais.
Et ben voilà. Fait que là, donc toute cette vie qui passe. Et pourquoi j'étais
pas nécessairement un long fleuve tranquille.
Il n'était pas un long fleuve tranquille. Puis pourquoi j'ai pas choisi la musique pendant ces années-là, c'est que justement pour parler d'environnement, tu sais, je veux dire, les Cowboys Fringants là, ils faisaient ça très très bien. Avec une chanson de 3 minutes, moi, ouais. j'étais pas capable. Je me disais, non, je sais pas comment je vais faire pour parler des enjeux qui me préoccupent en musique. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers le documentaire. Et après tout ça, tu te dis, OK, finalement, on convainc personne avec des arguments.
Fait que... On convainc juste les convaincus, comme vous le disiez tantôt.
Ouais, c'est ouais. ça. Fait que là, il fallait que je revienne puis que je me sente vraiment connectée avec le monde. Puis pour ça, ben tu sais, il n'y avait pas le filtre de... Je trouve que la musique, même s'il y a des textes, et même si ça prend beaucoup de temps à écrire des textes, puis que je m'y penche sérieusement et avec tout mon cœur et toute ma tête aussi, je trouve que la musique, elle connecte directement avec le monde, tu sais.
Ouais.
Peu importe.
Une chanson, ça touche ou ça
ouais,
touche pas.
Ouais, on écoute ouais. de la musique dans des langues étrangères, puis on est quand même touché, enveloppé, transpercé. Mm-hmm.
Malgré que dans vos chansons, vous ne parlez pas nécessairement d'environnement.
Absolument
peut-être
pas.
D'écologie intérieure.
Mais d'en rendre grâce, c'est un peu un...
Ah oui,
c'est
la
un
chanson
peu
titre.
Détourné. Je veux dire, c'est un appel à la paix, tu sais. C'est un appel à la paix. En fait, moi, j'ai lu le livre... La plus belle histoire du monde, qui est un livre écrit par 4 scientifiques, dont j'oublie les noms, mais il y a Hubert Reeves qui fait partie des 4 scientifiques et qui raconte l'histoire du monde. Fait que rendre grâce, j'essaie en 2 minutes de synthétiser l'histoire du monde, mais surtout de nous rappeler notre humble place dans ce monde-là et essayer d'insuffler ce désir d'être plus parmi.
Humble.
Oui, mais le plaisir et le bonheur d'être parmi.
Oui, les humains.
Parmi les humains, parmi les animaux, parmi la nature.
D'être dans la vie.
D'être parmi plutôt qu'être au-dessus.
Oui. Arrête de te prendre pour un autre.
Ou arrête d'essayer de vouloir, de penser que ton bonheur est tributaire du fait que tu contrôles le monde en dessous
ouais,
de toi.
Ouais, ouais.
On contrôle rien.
Pas vraiment.
Même ceux qui pensent qu'ils contrôlent tout, puis tu sais, qui contrôlent des grandes affaires, puis qui nous... J'allais dire des gros mots, mais qui
ont du pouvoir.
Oui, qui ont du pouvoir. Puis ça, c'est intéressant dans le livre de, justement, La plus belle histoire du monde. Il parle de ça, de comment on va arriver, l'être humain, à ménager ou à dealer avec la puissance qu'on a développée avec toute l'évolution de nos outils, puis tout ça, en tout cas. Bref. Fait que Rendre grâce, c'est un peu une chanson...
En écho à cette philosophie-là de vie, cette vision des choses.
Et c'est très poétique. Je pense que vous allez la faire jouer à la fin. Donc, tu sais, vous allez
non,
voir.
Non, oui, oui.
Vous pourriez ne pas vous en rendre compte. C'est assez caché, mais pas tant.
Oui. Il y a une subtilité, mais on peut lire entre les lignes. Maintenant que vous nous en avez parlé aussi avec un peu plus de détails, mais c'est à nous aussi à interpréter les choses.
Ben oui, il y a des choses quand même plus... Tu sais, je dis assujettir la Terre jusqu'à son dernier souffle. Je pense que ça, c'est assez clair. Mais
ouais.
Sinon, c'est quand... Mais c'est pas vindicatif.
Non.
C'est plus mélancolique. C'est plus genre, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, tu sais?
Parce que quand on passe notre message avec une certaine colère, on dirait que les gens n'ont pas le goût d'entendre ou d'être attentifs.
Et pourtant, il y a de quoi être en colère.
Oui, ah oui, on a plein de raisons d'être enragé.
Mais oui,
mais ça donne quoi? C'est pas bon pour la santé non plus.
Non. C'est ça.
Il y a votre ami, Christian Bégin. Où vous l'avez rencontré, Christian Bégin?
Oh my God! Où est-ce que je l'ai rencontré? Ça fait longtemps, là.
Oui.
Ben, tu sais, on est deux acteurs, fait qu'on a dû se croiser dans des halls de théâtre. Puis.
Vous n'avez jamais partagé de projet professionnel avec lui?
J'ai partagé ma vie avec lui.
Ah, je savais pas! Potin!
Mais ça fait longtemps. Mais okay. Christian, c'est mon grand ami.
Oui.
En 2000. Quand j'ai sorti Youpelay, on se connaissait, on se croisait, on était voisins. On allait reconduire nos enfants à leur école, ou garderie, puis on se disait bonjour du coin de la rue, mais on se parlait pas, on se connaissait pas. Quand j'ai sorti mon album, il m'a écrit des beaux... Christian Bégin, c'est la personne la plus généreuse au monde sur tout ce qu'il voit puis qu'il reçoit. Puis qu'il voit passer sur les réseaux sociaux. Puis dans le temps, c'était même pas les réseaux sociaux. Il prend le téléphone, il t'appelle, puis il dit « Je te connais pas, mais je trouve ça beau ce que t'as fait. »
Il laisse des messages vocaux aussi.
Il laisse des messages interminables.
Mais c'est parce que j'ai lu sur sa page Facebook, je parle de lui, parce qu'il écrit en parlant de vous, Geneviève, c'est mon amie pour la vie.
Ouais.
Puis entre les 1000 idées qui circonvolutionnent dans sa belle tête, il y a ça qui s'incarne magnifiquement dans le monde. Il parle de votre album, c'est beau, c'est doux, c'est joyeux, tantôt pas, c'est d'aujourd'hui et d'un autre temps, c'est elle qui chante, bravo Geneviève, à cette heure, faites-vous du bien, un bombe sur tout, avec 3 T, qui se fissure. Un bombe sur tout qui se fissure.
Oui,
parce que c'est vrai que tout se fissure.
J'envie cet homme.
Une belle plume.
Il trouve toujours les mots justes. Puis, ah! mais c'est ça. Puis donc, juste pour dire, tu sais, il écrit ça, puis c'est vraiment par amitié, parce que ça fait plus que... Je sais plus, ça fait combien de temps qu'on n'est plus ensemble. Ça fait comme 10-12 ans qu'on n'est plus ensemble.
Maintenant, il est marié.
Là, il est marié avec la belle Marie-Ève, puis tu sais, puis j'étais à son mariage. C'est vraiment...
Ah, mais c'est bien, un amour qui est devenu une amitié précieuse, riche. C'est quelque chose de rare.
Éternel.
Oh, wow. Alors, vous lui rendez hommage à votre tour. Et Geneviève, en lisant sur vous, vous avez consacré des années au chant classique. Ça s'entend dans votre voix.
C'est drôle.
Pourquoi ce choix?
D'abord et avant tout, même pas... Je vous parlais de mes années d'environnement puis aussi de recherche de financement pour faire des films puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je pense que j'étais en train de faire une dépression. Je m'en allais en faire une.
Ah oui, vers un mur.
Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien? La musique. Fait que là, mon but, c'était vraiment juste d'être immergée dans la musique. Quand j'ai fait ma demande à l'université, j'ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est vivre dedans la musique à temps plein. Je veux pas penser business.
Pour vous, c'était ce qui allait vous sauver, entre guillemets, là. Quelque chose de thérapeutique.
Je me disais juste, je peux pas croire... J'avais 50 ans en 2020. J'ai dit, je peux pas croire que je vais passer ma vie sans avoir étudié la musique. J'en fais, mais je suis une autodidacte avec des cours privés de chant, tout ça, tu sais. Mais je dis, je peux pas croire que ça va m'arriver. Puis en plus, ça me manque. Puis en plus, j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai pas envie d'initier un projet comme productrice parce que ça, c'est lourd. Puis là, tout ce que je vivais en cinéma, je l'aurais vécu en musique. Je veux dire, je le sais, là, je replonge dedans. T'sais.
Vous aviez pas cette énergie-là, cette envie-là.
Bien, j'avais pas envie de corrompre mon plaisir de la musique avec l'aspect business. Fait que j'ai dit, je retourne à l'école. Puis pourquoi j'ai choisi chant classique? Je pense à celui qui était... je vais aller loin, là, mais... tu sais, celui qui a dessiné le bonhomme juste pour rire, comment il s'appelle?
Ah oui, le graffiteur, là. Il y a un seul nom. Il est mort.
Ouais. En tout cas, je me rappelle, il racontait comment il avait choisi de venir à Montréal quand il a immigré. Tu sais, puis il dit, ben, il y avait une file, puis il dit, la file pour Toronto était très longue, la file pour Montréal était courte. Il dit, j'ai pris cette file-là. Je dis pas qu'il y avait la file était courte en chant classique, mais c'est plutôt que je regardais le corps. Puce, Mm-hmm. Puis l'audition, puis tout ça. Puis tu sais, j'ai fait, ah, oh, ça me tente, j'ai jamais fait ça, le chant classique. Puis, mais tu sais, c'était pas réfléchi. Ça a juste fait, ah, oh, je lis ça, je lis ça.
Mais le chant classique, vous avez vraiment eu des cours.
4 ans. J'ai fait un bac de 4 ans avec Marie-Annick Béliveau.
OK. Puis ça consiste à apprendre à chanter quoi, l'opéra ou.
Oui. Pendant 4 ans, je n'ai chanté que. Et écouter que des airs classiques.
Vous avez appris à lire la musique aussi?
Oui, ça ouais. A moins bien marché.
Vittorio?
Vittorio, oui!
Merci, Matteo.
C'est ça. Mais oui, donc... et c'était pour ça aussi que je voulais aller étudier le chant classique, c'est que je me disais... J'ai approché ma voix, c'est un instrument. Hein, mm-hmm. On chante avec notre corps, puis j'ai eu des profs qui m'ont appris toutes sortes d'affaires, puis là, j'étais encore dans l'incompréhension de mon instrument. Puis cela dit, l'instrument vocal, c'est un grand mystère pour le restant de mes jours, mais...
Mais c'est ça qui est fascinant aussi.
J'en connais un peu plus d'angle oui. maintenant que j'ai fait ces cours-là en chant classique, tu sais.
Ouais. Qu'est-ce que vous en retenez?
Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que j'en retiens? Hey. C'est des placements, mais c'est la loi du moindre effort. Là, probablement qu'il y a des chanteurs classiques qui les cheveux vont leur le dresser sa tête. Mais mon prof me disait toujours, si tu forces trop, si tu travailles trop, c'est parce que tu travailles mal.
Ouais.
C'était toujours de trouver. Mais je pense qu'en chant pop aussi, tu sais.
Faut pas que ça paraisse de toute façon. Là. Il y a du travail derrière ça.
Ça
mais quand on est sur une
facile
scène
quand
ou
on les regarde chanter. Mais oui. Mon Dieu, que c'est tough. Ouais. Après 4 ans, je suis pas devenue une chanteuse lyrique. Là. Ça prend.
Mais est-ce que vous sentez, ben, on l'entend là, que votre voix s'est transformée, que vous avez plus de pouvoir sur votre voix.
Ben j'ai plus
de contrôle.
Voilà. Je dirais que je peux voir presque 360 la vision de cet appareil-là. Tu sais, il y a des jours que je dis, ah, enfin, j'ai compris, puis là, j'arrive à mon cours de chant, puis finalement, ça, je comprends plus rien. Tu sais, c'est tout le temps ça. Quand je suis dans ma douche, je suis vraiment bonne.
Ouais.
Puis je comprends tout. Puis quand c'est le temps de le faire dans le cours, là, c'est bien plus tough. Puis quand je suis sur une scène, on dirait que là, ça se passe, puis là, j'y pense plus à rien, puis je pense à l'émotion, à transmettre quelque chose, puis là, tout d'un coup, je suis plus dans technique.
Donc, bien, c'est sur la scène que ça compte. Et dans un studio d'enregistrement, c'est comment?
C'est plus tough.
Oui. Parce que vous êtes quoi, perfectionniste? Vous voulez reprendre et reprendre?
Bien, c'est parce que t'as pas le monde, déjà.
Oui.
Fait que là, tu chantes à personne. Puis chanter, c'est...
Bien, il y a une petite équipe quand même, vos musiciens...
Non, les
pas du tout.
Non, on a enregistré les musiciens avant. J'ai fait mes voix par après.
Oui, avec quelqu'un qui
avec
vous accompagnait.
Avec Denis qui était...
Denis Ferland, le réalisateur.
Le réalisateur qui est là, qui est patient, qui est d'une patience. Mais mon Dieu!
Mais c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer. On va écouter Rendre grâce.
Oui.
On m'a appris à être poli. Je dis s'il vous plaît et merci, mais je m'aperçois que je ne sais pas rendre grâce. Que je ne sais pas rendre grâce. Je suis née dans un souffle, à des années-lumière, être vivant de souche, bien avant les minières. La vie, matières élémentaires, crée la chorégraphie. Tiens ce goût salé sur ma joue. êtres en souffrent assujettir la terre jusqu'à son dernier
Mathieu Tessier, qui est notre régisseur ici, metteur en onde, a une oreille très, très fine. C'est un gars de radio, n'est-ce pas? Puis il me disait à l'oreille qu'il y avait quelque chose d'intemporel dans cette chanson.
Oui, bien, je pense effectivement, dans l'album, moi, je dirais, là, je n'arrive pas à le situer parce que comme productrice, il faut toujours que, comme maison de disque, il faut que je le propose à toutes sortes de monde. Puis
fais ton pitch.
Fais ton
bon
pitch.
Français.
Puis c'est quel genre? Puis là, je fais, oh boy, je sais pas trop le genre, puis pas l'époque non plus.
Alors, à découvrir cet album intitulé Rendre hommage. Rendre grâce. L'hommage, ça sera pour plus tard. Geneviève Bilodeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci
à une prochaine, j'espère. Bonne continuation. On va vous suivre là, sur les réseaux sociaux, sur votre site genevièvebilodeau.com.
Parfait. Merci beaucoup.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Chronique cinéma maintenant avec Louise-Véronique Sicotte. Bonjour Louise-Véronique.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous en cette journée de printemps. On commence avec, vous avez vu trois films, comme d'habitude,
comme
à peu près. L'aventurine de Carlo ou Carlos, je ne sais pas s'il faut prononcer Carlos, Ferrand, on écoute la bande-annonce.
C'est le début du siècle. Et nous sommes là où le monde commence, en Gaspésie. Ici, l'ésotérisme rencontre la science et l'art.
J'ai jamais vu une étoile de mer aussi petite de toute ma vie.
Ouais, la beauté dans les détails.
Bien parti, t'as bien fait ça.
Il faut que tous les jours, j'aille voir le rocher. Puis je suis persuadé que ce rocher-là m'aide à mieux vivre.
Les gens qui ont 20 ans, quand ils voient 10 canards, pour eux autres, c'est « Ah, fabuleux! » Ils savent pas ce qu'il y avait avant.
L'aventurine, donc un extrait de la bande-annonce. Vous l'avez vu, ce film? Ça se passe en Gaspésie, je comprends bien. On parle du rocher.
Oui, le rocher, l'unique rocher percé. Oui. C'est un hommage aux habitants de la Gaspésie.
OK, d'abord et avant tout.
D'abord et avant tout, parce que ce sont les Gaspésiens et Gaspésiennes qui vivent là-bas, qui résistent, qui ont le cœur...
Gaspésien.
Absolument, Gaspésien. Et c'est un documentaire de Carlos Ferrand. On l'a entendu au tout début. C'est lui qui fait la narration.
C'est un Gaspésien d'origine?
Non, il est né...
D'origine d'adoption, je voulais dire?
Ça, je ne sais pas, parce qu'il est, d'origine péruvienne.
Ah, mais on ne sait pas s'il vit là.
Je ne pense pas, mais quand même. Mais quand même, en fait, il adore la Gaspésie et il a voulu mettre de l'avant... les personnes qui y habitent. Alors, ce n'est pas un documentaire de carte postale, là, de touristique, pas du tout. On est avec les gens. Et il s'est fié à son intuition, parce que c'est un peu aussi, il s'est promené à travers les villages et il s'est dit, bon, ben, qui pourrais-je rencontrer? Alors, il a fait des magnifiques rencontres. Alors, ce sont des moments dans la vie quotidienne de ces personnes-là. Alors, ce sont des...
Des gens qu'on ne connaît pas du tout,
là. Des gens qu'on
ne
connaît pas du tout, enfin, pas...
Ce ne sont pas des personnalités publiques.
Non, non, en fait. Et donc, il y a les différentes générations. Alors, il y a les enfants aussi, la transmission du savoir aux enfants. Il y a une femme qui est autosuffisante dans sa maison, dans son environnement. Il y a un biologiste, il y a des historiens, il y a des artistes. Il y a un peu de tout, en fait.
Et est-ce qu'on va un peu partout en Gaspésie, parce que c'est un territoire immense?
Oui, mais ce n'est pas nécessairement nommé. En fait, c'est de la vallée de la Matapédia jusqu'au rocher percé, mais ce n'est pas nécessairement identifié. Et ces personnes-là qu'on voit à l'écran, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font dans la vie. C'est dans leur quotidien, c'est ce qu'ils vivent, qu'ils nous transmettent.
C'est intéressant.
Moi, j'ai trouvé ça très, très inspirant.
Oui.
Très inspirant. D'ailleurs, le titre, L'aventurine, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est
intriguant.
C'est intriguant, oui.
C'est une pierre verte qu'on retrouve sur les plages de la Gaspésie.
On voit d'ailleurs un Gaspésien qui en a une dans ses mains.
Oui, oui, oui. Et sa signification, c'est qu'elle est porteuse de renouveau. Alors, je pense que c'est un symbole aussi du film. On y voit aussi des artistes comme le chœur, les voyous, une chorale qu'on va entendre chanter en plein air. C'est aussi un retour sur les personnes qui ont découvert la Gaspésie autrefois. Donc, il y a des images d'archives. Par exemple, entrevue avec l'abbé Proulx qui a beaucoup filmé les habitants de la Gaspésie. Il y a Marc-Aurèle Fortin, donc, qui a beaucoup peint la Gaspésie. Paul-Émile Bordiois aussi. Donc, c'est vraiment des images d'archives sur ces personnages-là.
Est-ce que c'est un film contemplatif?
Je dirais contemplatif, mais c'est aussi pour montrer la résistance de ses habitants. Parce que la Gaspésie éprouve toutes sortes de difficultés comme les autres régions du Québec. Mais c'est aussi...
Surtout les régions qui sont en dehors des grands centres.
Oui.
Là, ils sont autosuffisants et...
Oui.
Mais ils sont dans un pays en soi, là, merveilleux.
Oui, merveilleux. Et c'est...
Est-ce qu'on rencontre des pêcheurs?
Non, non, pas nécessairement. On rencontre un Micmac qui fait de la... du sirop d'érable. Alors, oui. Puis, un couple très, très sympathique, John et Lucy, qui ont une grande collection d'espèces d'oiseaux et de coquillages, de pierres. Alors, c'est vraiment un film extrêmement attachant, mais c'est pour montrer aussi une prise de conscience de les personnes qui vivent dans les régions, l'importance de préserver la nature. Parce qu'ils sont conscients, mais aussi
pour
ils résistent.
Qui, de toute façon.
Ils résistent aussi. Ouais, alors, c'est vraiment un film hommage à la Gaspésie, mais pas comme on la voit habituellement.
Pas carte postale. Un bon rythme, ça se regarde bien.
C'est contemplatif, je vous dirais. Ce sont des moments de vie.
Faut avoir le goût de ça.
Oui, moments de vie.
Et c'est un film qui prend l'affiche ou qui a pris l'affiche?
Et qui prend l'affiche au cinéma Beaubien et au CLAP également à Québec.
Entre autres choses. Oui, L'Aventurine de Carlos Ferrand.
Oui.
L'autre film, c'est un film français d'Arnaud... je ne sais pas si on prononce le S, Desplechin ou...
Bonne question. Desplechin, peut-être.
OK. Alors, on écoute un extrait de la bande-annonce du film Deux pianos.
Il y a encore combien de temps avant d'atterrir?
Une heure à peine.
Qu'est-ce que tu allais faire au l'autre bout du monde? Tu es trop doué pour ça.
Redis le plus fort, ça, s'il te plaît.
Tu es tout seul.
J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années?
À l'époque, je vous aimais tous les deux.
Et t'as triché.
Non.
J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux. Je me suis vu.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Est-ce que t'as volé ça? Attends, t'as volé une photo de mon fils. Pourquoi tu montes ça maintenant?
Oui, j'ai vérifié, c'est Desplechin, Arnaud Desplechin, donc c'est son plus récent film intitulé « Deux pianos ».
Oui, c'est son 16e long-métrage de fiction.
Il a quel âge, lui?
Bon, je dirais, je pense autour de 65 environ, je pense.
Alors, qu'est-ce que ça raconte? Oui, l'histoire puis la distribution. S'il vous plaît, madame.
Oui, alors, madame, les rôles principaux sont interprétés par François Civil, qui interprète Mathias, un pianiste renommé, un virtuose, et Nadia Thérèse Kivitz.
Oui, pas évident à
prononcer. Ainsi que Charlotte Rampling et Hippolyte Girardot. Alors, des acteurs quand même très connus, ces deux derniers. Ces deux pianos, c'est deux pianos... joué par des...
L'histoire de deux pianos, comprends-tu?
L'histoire de deux pianos, oui. Un drame sentimental, un drame passionnel.
Oui.
Oui. Alors, c'est Mathias qui revient du Japon où il s'est exilé à la demande de Elena, sa mentor, qui veut absolument...
Incarnée par Charlotte Rampling.
Oui, qui veut absolument faire un concert avec les deux pianistes, elle et lui, en concert. Et là, il va... c'est un retour pour lui au Bercail. Et il va...
Il y a eu comme une fuite de sa part.
Oui, une fuite de sa part. Mais là, on va découvrir pourquoi. Mm-hmm. Je ne vous le dirai pas.
Lien avec l'amour.
Oh, un lien avec la passion. Une passion contrariée, disons. Et il va retrouver justement son amour d'enfance, de jeunesse plutôt, et qui partage sa vie avec son meilleur ami à l'époque.
Ouais.
Vous voyez, donc un triangle amoureux assez standard. Et ça va vraiment le chambouler. Et il va trouver une sorte d'obsession pour reconquérir cette personne, mais aussi pour imaginer que c'est peut-être lui le père de cet enfant.
Oui, parce que cette femme-là, qu'il a aimée quand il était plus jeune, a eu un enfant.
Oui, avec Pierre. Alors,
on
ne sait pas.
Le pianiste qui est de retour,
avec Mathias, c'est ça. Ça, je vous laisse découvrir. C'est un film qui m'a pas vraiment convaincue, je dirais, parce qu'il y a plusieurs éléments, il est très chargé. Dans la première partie, c'est plus le rapport entre Mathias et Elena.
On se demande c'est quoi l'histoire finalement. Il y a un problème de scénario, je trouve.
Je l'ai vu
moi aussi.
Oui, c'est comme deux histoires en fait, Et puis, en deuxième partie, c'est plus le rapport entre Mathias et Claude. Claude, c'est la femme qui est...
Aimée,
désirée, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Je trouve que c'est... En plus, moi, j'ai pas tellement cru au personnage de Claude parce que je trouve qu'il y a un revirement de ses sentiments assez brusque. Ouais.
Les comédiens font ce qu'ils peuvent. Ils sont bons, mais...
Oui, ils sont investis.
Ils pataugent dans un scénario qui
est trop écrit,
on dirait qu'il
n'y
a pas les moyens de ses ambitions. Là. On se dit, ah oui, on assiste à un grand film, puis là, à un moment donné, tout s'effondre.
Oui, tout s'effondre.
J'ai eu ce sentiment-là, en tout cas.
Oui, mais je partage même. Mais par contre, François Civil, il s'est beaucoup investi dans la pratique du piano, parce que ce n'est pas un pianiste. Et c'est lui qui, d'ailleurs, qui joue la pièce de Chop de Bach à la toute fin. Alors, quand même, il s'est beaucoup investi. Mais moi, je n'ai pas tellement cru à ce triangle amoureux, malheureusement. Et c'est quand même encore une version du triangle passionnel. Il aborde aussi l'art et ses exigences, la mort, le déclin aussi.
Les thèmes éternels qui peuvent toujours nous intéresser,
oui,
mais
là,
tout dépend du traitement.
C'est un mélange de tout ça.
Un magma. Bon, alors, on va se laisser. Ouais. On va se laisser.
Mais
on
c'est
se
présenté,
laisse pas tout de suite.
C'est présenté au beau cinéma, au bien.
OK. Entre autres. Parce que là, on parle à des gens qui nous écoutent partout au Canada.
À Montréal, mais
pour les Montréalais, oui, vous pouvez voir ce film au beau bien. Autre film, cette fois, c'est un film québécois qui est le premier film de fiction.
Oui, tout à fait.
D'accord, de Hubert Caron-Gay, La mécanique des frontières.
Qu'est-ce que tu veux?
Je suis encore en Arizona.
Tu sais que tu peux pas aller là. Hein? T'as connu ta sœur.
What's going on?
Pourquoi t'as jamais essayé de m'appeler?
La terre a pas arrêté de tourner parce que t'es parti.
C'était pas supposé se passer de même.
Heidi!
You're a parasite, aren't you, girl?
Faut t'en aller te laisser gérer.
What did you do to make her run away?
La mécanique des frontières, vous avez aimé, je pense, Louise Véronique.
Ben, en fait, je pense que c'est un film qui est très intéressant pour un premier film de fiction réalisé par Hubert Caron-Gay. Il a fait des documentaires auparavant, des longs-métrages documentaires. Il s'est beaucoup intéressé à la situation des immigrants illégaux, par exemple, aux États-Unis, mais aussi au problème des travailleurs dans les abattoirs. Donc, ces deux éléments-là aussi reviennent dans ce film de fiction. C'est un road movie. Alors, juste en petit résumé, c'est Mathieu qui est interprété par Dylan Walsh. Moi, que je ne connaissais pas, c'est un comédien qui a joué dans la série Indéfendable, entre autres, et Alerte. Et donc, il incarne Mathieu, 19 ans, qui travaille dans un abattoir et qui a une vie plutôt, je dirais, ennuyeuse, avec des relations plus superficielles. Un jour, il reçoit un appel de sa sœur, Heidi, qui vit en Arizona et qui semble désespérée et qui lui demande de venir la chercher. Donc, ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et il faut préciser que ces deux jeunes-là sont des enfants de la DPJ, donc ils ont vécu en famille d'accueil. Alors, il va aller la retrouver, aller la chercher. Bon, pour quelle raison elle est désespérée, elle veut absolument quitter. On le découvre, mais là, il va la ramener et c'est un road movie en vieille camionnette. Et c'est la relation entre les deux qui est faite de tensions parce que les deux sont des écorchés de la vie.
Ça fait des bons films aussi quand il y a une tension dramatique.
Oui. Il y a plusieurs tensions dramatiques dans ce film, mais c'est aussi un amour inconditionnel du frère et de la grande sœur. Alors, les deux sont des poquets de la vie, on pourrait dire. Alors, c'est une façon aussi de se retrouver, un film de résilience, mais de montrer que c'est les séquelles des blessures de l'enfance.
Ça reste.
Alors, ce sont surtout le personnage de Heidi. Et d'ailleurs, c'est interprété par Sophie Fekete, et j'ai fait des recherches sur elle, et c'est son premier rôle. Sa première expérience d'actrice.
Ah oui.
Parce que c'est une. Ben, elle est très forte. Oui. C'est une danseuse contemporaine de formation. Et là, d'ailleurs, elle étudie à Londres en
art
dramatique. Non, en art dramatique.
Ah, bon, d'accord. Oui, elle a changé comme de voix.
Oui, changé de voix. Et elle est très, très forte dans ce film. Elle perce l'écran.
C'est un charisme.
Un charisme. C'est parce qu'elle fait un personnage qui est très. Comment dire, imprévisible, très extraverti, très écorché.
Oui,
donc,
on sent un peu en danger en sa présence.
Oui, parce qu'on ne sait pas comment elle peut réagir. Mm-hmm. Donc, elle amène son jeune frère dans toutes sortes de situations plutôt risquées, je dirais, dans ce film.
Est-ce qu'il y a un certain suspense ou on n'est pas là du tout, là?
Ben, c'est parce que il la ramène et là, on va voir comment les choses se passent. Enfin, lui, il a aussi un enjeu de travail. Il faut qu'il soit de retour à un certain moment. Et là, il y a des problématiques qui arrivent, des obstacles. Et elle, avec elle, on ne sait pas quel sera son avenir. C'est très, très précaire. Mais c'est un film sur l'amour inconditionnel et aussi de voir des personnes qui sont en situation de déséquilibre dans la vie. On aborde également le thème de l'immigration parce que, bon, ils vont rencontrer une personne qui est peut-être une immigrante illégale aux États-Unis et là, on va voir un peu comment les choses se passent pour elle. Alors, c'est un film de rencontre, un film avec des situations, des scènes très fortes entre les deux.
Avez-vous compris le titre, La mécanique des frontières?
Ben, les frontières peut-être frontières terrestres aussi, bon, Canada, États-Unis, mais aussi peut-être les frontières entre les frontières qu'on se met aussi entre les personnes.
Oui,
pour se protéger.
Qu'on ne veut pas nécessairement traverser. Parce que justement, on se sent peut-être en danger.
Oui, vulnérable.
Oui. Bon, alors, je pense que c'est votre film préféré parmi les... Mais L'Aventurine, vous avez bien aimé
aussi.
Oui,
j'ai bien aimé. Mais c'est sûr que La mécanique des frontières, c'est un film qui est quand même dur, qui est quand même... qui est très... C'est pas un film, là, de joie, là.
Non, mais, on n'est pas dans le divertissement.
On est dans le drame psychologique.
Avis
mais découverte de deux acteurs prometteurs.
Oui.
C'est ça.
Bien, merci beaucoup pour ces trois propositions. L'Aventurine, Deux pianos et La mécanique des frontières avec Louise-Véronique Sicotte. C'est toujours un plaisir, Louise-Véronique.
C'est toujours un plaisir. Merci, Hélène. Plus t'approches là, plus tu vois les étoiles. Les mains qu'il y avait dans tes yeux. Les mains qu'il y avait dans
Yeah. qui est plus dans tes yeux, les mêmes qu'il y avait dans les miens quand on se regardait. C'était beau. J'étais juste trop con, j'ai frappé un mur. Ma gueule.
La chanson Étoile de Gab Bouchard.
Merci Mathieu. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, émettra la plus haute distinction universitaire à deux personnalités éminentes lors de la collation des grades 2026, une nouvelle que j'ai trouvée sur le site de Radio-Canada. Henri Jacob, militant et écologiste, et Rémi Mailloux, acteurs clés du développement social et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, recevront chacun un doctorat honoris causa. Impliqué depuis 1972, Henri Jacob dit avoir accueilli la nouvelle avec surprise. « Je ne suis pas quelqu'un qui a appris à l'université. Moi, j'ai appris sur le terrain. Je suis un militant et habituellement, les militants n'ont pas nécessairement de bonnes cotes au point de vue de l'establishment. Mais ça fait plaisir et tant mieux si l'université reconnaît des gens d'après leurs implications sociales et des fois pas toujours appréciées. » a-t-il dit. Rémi Mailloux, quant à lui, voit pour sa part une belle reconnaissance pour le travail accompli à l'amélioration de la société. « Vous ne faites pas ça pour les reconnaissances. On fait ça pour la collectivité, pour que notre environnement, les personnes handicapées que moi, je défends bec et ongles, aient de beaux moments dans la vie. C'est comme une bonne tape dans le dos », a-t-il expliqué en entrevue. La cérémonie de collation des grades aura lieu le samedi 13 juin. Les productions théâtre Tout-Patou ont officiellement lancé les activités préparatoires du projet Appui à la création artistique et la reprise des événements culturels face à la crise sécuritaire soutenue par le Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO, sélectionné lors de l'appel à projets culturels pour la qualité et la pertinence de sa proposition. Ce programme offre aux jeunes Haïtiens vivant avec un handicap un espace d'expression, de création et de valorisation de leurs talents. Placé cette année sous le thème « Debout, même en fauteuil roulant », la Quinzaine internationale Handicap et culture porte un message de résilience, de dignité, d'inclusion et d'espoir. Les ateliers et activités artistiques engagés dans le cadre de cette initiative se poursuivront jusqu'au festival prévu en octobre prochain. Il vise à renforcer les capacités créatives des jeunes participants et à favoriser leur pleine participation à la vie culturelle haïtienne. En soutenant ce projet, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur d'une culture inclusive et accessible, accessible à tous, et reconnaît la créativité des jeunes comme un moteur de cohésion sociale, de paix et de développement durable en Haïti. Nouvelle que j'ai trouvée sur icihaïti.com. C'est là-dessus que se termine cette émission de ce mercredi. J'avais annoncé Julien Caillouette. Alors, on avait préenregistré la chronique avec Julien. On va vous la proposer demain, sans doute, à suivre. Passez une belle journée. Merci, Mathieu. Au plaisir de vous retrouver.